des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, deux premiers romans signés par deux auteurs aux voix très singulières qui portent en cette rentrée et qui nous parlent de l'exil, de la jeunesse, de l'Afrique, de la façon dont on peut se chercher un destin hors du continent. Ce continent synonyme pour chacun des narrateurs d'une souffrance et d'une fracture, de vie brisée aussi. Ces auteurs, ce sont Gaël Faye qui publie Petit Pays chez Grasset, un roman écrit au Burundi, je crois, Gaël Faye.
Je ne l'ai pas écrit au Burundi, mais ça parle du Burundi.
Voilà, mais écrit où alors? À Paris, écrit un peu partout.
À Alfortville.
À Alfortville. Un roman écrit à Alfortville qui nous parle du Burundi, qui nous parle du Rwanda aussi. Et Ali Zamir. Bonjour, oui. Ali Zamir.
Bonjour, Christophe.
Alors, vous êtes, vous, l'auteur d'Anguille sous roche, alors écrit aux Comores et en Égypte.
Bien sûr.
C'est ça.
Uniquement au Caire.
Uniquement au Caire, oui. Mais avec les Comores dans la tête.
Oui, bien sûr.
Voilà. Écrit au Caire, vous nous en parlerez, Ali Zamir, c'est publié au Tripode. Alors, Gaël Faye, Petit Pays, nous replonge dans ces terribles années qui ont été les années 90 pour les pays du Burundi et du Rwanda. Nous vivons ce drame de l'histoire africaine à travers les yeux marrons, dit-il, et sincères de Gabi, le narrateur, un jeune garçon métis, né d'un père français et d'une mère rwandaise et dont l'enfance heureuse, protégée, plutôt bourgeoise, plutôt aisée aussi. Hein. Oui. Il n'en a pas conscience, mais...
Non, il n'en a pas conscience, comme il n'a pas conscience de son identité. Il n'a pas conscience que sa mère est une réfugiée. Il n'a pas conscience que son père est français et qu'il est venu en Afrique, certainement, pour chercher quelque chose.
Alors, cette enfance va être tailladée par le génocide rwandais et la guerre civile burundaise, mais aussi par le divorce de ses parents, la guerre faisant aussi voler en éclats la cellule familiale. Le roman marque à lui seul, par la chronologie du récit, cette entaille dans l'innocence, ce basculement dans l'horreur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. « Je me demande encore quand les copains et moi, nous avons commencé à avoir peur. » Alors cette phrase, Gaël Faye, qui fait scintiller le mot « les copains » à côté du mot « peur », est-ce qu'elle ne pose pas « Petit pays » comme un roman qui, à la fois, nous dit l'horreur de l'histoire la plus sanglante, mais en même temps une manière de la peindre ? Aux couleurs de l'enfance, de la vitalité folle, de la drôlerie, de l'énergie de cet âge d'insouciance où le jus des mangues volées compte plus peut-être que les discussions des adultes, en tout cas au début.
Oui, complètement. On a une image, je pense, souvent très fausse de la guerre. On se dit que ce sont des moments uniquement de souffrance, mais comme on est... pendant la guerre aussi, dans ces instants où la vie peut s'en aller à tout moment, il y a aussi une intensité très très forte. Et il peut y avoir des moments de joie, il peut y avoir des grands moments d'émerveillement. Et donc ce roman, c'était aussi pour moi une manière de montrer que la vie, le bonheur, peut côtoyer les germes du mal qui étaient dans cette société burundaise et qui était prête à... cette lave venimeuse dont je parle, qui était prête à sortir.
Et à déferler.
Exactement. Et donc, il y a une envie, une ambition aussi pour moi de montrer un visage quotidien et banal de ces régions.
Ali Zamir, alors, oui. On a beaucoup parlé de vous au mois d'août, avant même la parution de votre livre, qui avait été repéré par sa force, par un certain nombre de lecteurs qui avaient eu la chance de la lire sur épreuve. On a parlé de vous pour un problème de visa pour la France qui n'arrivait pas, ce qui est, hélas, raccord avec le sujet de ce très beau livre, donc Anguille sous roche, qui raconte l'exil, la fuite ratée d'une jeune femme qui se noie alors qu'elle quitte l'île d'Anjouan aux Comores pour l'île de Mayotte. Alors c'est elle, Anguille, à peine sortie de l'adolescence, qui est nommée ainsi par son père qui se fait appeler connaît tout. C'est un vieux sage moraliste, il assène à son entourage et à ses enfants des proverbes plus incongrus les uns que les autres. Il a baptisé son autre fille Crotale. Et Anguille va nous raconter dans un seul souffle, puisqu'elle est en train de se noyer, tout ce qu'elle a à dire de cette vie en train de s'achever. Anguille, tu perds du temps alors qu'il ne te reste que quelques minutes ou quelques secondes. Qui sait ? Ah, je fais toujours le diable à quatre, écrivez-vous. Elle s'adresse à nous. Et nous raconte quoi, Anguille ? Bien sa brève histoire d'amour avec Voras, un pêcheur qui est le premier à susciter le désir en elle. Sa vie sur son île, le travail des pêcheurs, les rêves aussi, les autres horizons qu'on aimerait trouver. Mais le propre de cette anguille, et vous allez me dire si je me trompe, c'est pas seulement ce fond, c'est la forme, car le récit, il est porté uniquement par sa voix. Et il est littéralement animé, c'est-à-dire traversé par un souffle, hein, au sens étymologique, ponctué de virgules uniquement, débarrassé de toute autre ponctuation, et donc animé par cette seule phrase envoûtante qui s'enroule sur elle-même, où le point d'une ponctuation a disparu, alors même que paradoxalement, une vie est en train de trouver son point final. Alors, est-ce que c'était la forme, Alice Amir, qui était commandée d'office, si je puis dire, par cette longue phrase, ce long souffle d'une noyée, dont la vie, en fait, est insufflée au lecteur par une sorte d'échange, de transmission?
Alors, je dirais que c'est le fond qui a fait appel à cette forme, parce que il y a un grand rapport entre ce que Angu est en train de vivre, ce qu'elle est en train de dire, et ce que l'écriture elle-même caractérise comme style. Angu est dans une situation d'urgence. Elle est en train de mourir, et comme vous l'avez lu, elle se demande s'il lui reste que quelques secondes ou quelques minutes. Dans ce cas, cette urgence, comment la montrer? C'est justement en une phrase, une seule phrase qui mime cette urgence, qui démontre cette urgence. Et cette phrase, c'est justement ce qui fait les 300 pages que j'ai écrites. C'est une seule phrase pour montrer cette urgence.
Pouvait pas l'écrire autrement, pour vous?
Pour moi, non, je pouvais pas l'écrire autrement. C'était justement démontrer cette urgence par le style, et aussi démontrer que la littérature, c'est quelque chose qui donne du souffle. C'est un milieu où il ne doit pas y avoir un étouffement. Mon écriture, c'est une écriture de délivrance. C'est une écriture qui cherche son nom, son identité. C'est une écriture qui permet à la littérature d'avoir une boule d'air.
D'ailleurs, c'est drôle, ça commence par une interjection.
Oh, justement.
Et ça finit
bien
par...
sûr. Ouf, justement.
La délivrance dont vous parliez.
Et là, on revient. C'est justement voulu, c'est ce mouvement de circularité. Aller et revenir au même sujet. On a commencé par une interjection, on revient sur une interjection. On a commencé à la mer, on revient à la mer. Cette circularité-là marque cette urgence et montre que c'est une toute petite chose qui est démontrée à partir d'une grande phrase.
Vous avez lu Gaël Fay, Anguille sous roche?
Je suis en train de le lire.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette circularité?
Je suis encore dedans, mais je trouve ça incroyable. Mmh. Ce souffle, c'est bon. Le souffle qui m'impressionne.
Et réciproquement, Alice Amir, vous avez eu le temps de lire Petit Pays?
Oui, j'ai commencé à le lire, ça fait 3 jours, et c'est un roman passionnant.
Bon, il faudra terminer hein, quand même.
Très passionnant. Hein, oui,
ce sera vos devoirs après cette émission. Merci à tous les deux, en tout cas, de participer à ce temps des écrivains qui vous est consacré. Alors, le point commun entre vous deux, s'il y en a un au départ, il est tout simple, c'est que vous arrivez dans cette rentrée littéraire avec un premier roman sous le bras. L'un arrive d'Alfortville, non mais en fait de Kigali, hein, parce que vous vivez au Rwanda, Gaël Fay. On l'a dit à l'orée de cette émission, Alice Amir, vous arrivez directement des Comores, ça a été un peu compliqué, mais en fait vous êtes là et on est très heureux. Quel est votre état d'esprit à l'idée de rencontrer des lecteurs qui vont rencontrer votre texte, hein, je pense pas forcément à des rencontres physiques, mais à provoquer une rencontre mentale chez des lecteurs qui vont finalement, grâce à votre roman, connaître une autre réalité que la leur. Vous leur donnez à voir d'autres pays, mais dans une langue qui est la leur. Pourtant, est-ce que vous y mettez dans ce rapport à la langue que vous avez mis dans un livre et que vous transmettez maintenant à des lecteurs un enjeu particulier ou pas du tout, Alice Amir?
Oui, tout à fait. En écrivant, j'ai aussi cette ambition de vouloir faire connaître aussi notre culture, notre vécu, et aussi permettre à ceux qui veulent s'enrichir par la littérature de découvrir d'autres choses que des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire permettre au lecteur d'avoir aussi cette liberté de s'évader, de rêver à un autre monde, de voir qu'avec l'écriture, tout est possible. Et que c'est la seule discipline qui permet aux gens de vivre l'impossible.
Gaël Faye, ce que je pensais, en préparant cette émission, deux citations que je trouvais intéressantes. Aimé Césaire qui disait « J'ai plié la langue française à mon vouloir dire » et Amadou Kourouma, toi que j'aime beaucoup, qui disait « J'exprime en français quelque chose qui n'est pas français ». Est-ce que pour vous, voilà, il y a un enjeu particulier à utiliser cette langue française, voilà, que vous allez servir à des Français, mais sur une réalité, au fond, qu'ils ne connaissent pas ?
Oui. Je me suis toujours posé la question en écrivant de la réception aussi de ses écrits. Et j'avais envie que ce livre puisse être compris et dans mes patries africaines.
Ouais, mes patries.
Voilà, donc Burundi et Rwanda, et également en France. Ouais. Et donc j'ai toujours ce souci-là, même quand j'écris des chansons, de pouvoir parler à ces deux continents, enfin à ces deux pays, à ces deux entités.
Et est-ce que vous avez l'impression, en fait, tous les deux, en tout cas, de travailler, bah, comme le disait Césaire, quoi. Il y a une langue française, mais on la plie à une certaine façon de dire les choses. Ouais. Et surtout la phrase de Kourouma, qui est aussi assez provocante, hein. J'exprime en français quelque chose qui n'est pas français. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce qu'il y a un enjeu presque, littéraire, mais aussi politique, au fond, dans le beau sens du mot politique?
Bien sûr, la langue française est devenue une langue universelle. Mmh. Maintenant, elle appartient à un monde non seulement francophone, mais un monde caractérisé par la liberté de création. Et c'est ce que j'ai fait en écrivant Anguille sous roche. J'ai bénéficié de cette grande liberté que jamais je ne l'aurais eu si j'avais choisi ma langue natale, la langue comorienne. La langue française, pour moi, est en quelque sorte ma terre d'asile. Mmh. Et je profite de cette occasion pour parler aussi de ce roman de Gaël Faye, Petit Pays, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé en ce roman un grand rapport entre la culture occidentale et la culture africaine. Et ça m'a fait rappeler au grand Cheikh Hamidou Kane lorsqu'il a écrit Aventure ambiguë. C'est un sujet vraiment très...
Cette ambiguïté, vous en avez conscience,
Gaël? Oui, j'en ai conscience. Ouais. Pendant longtemps, ça a été une cause de souffrance parce que j'avais envie d'appartenir à soit l'un, soit l'autre, comme souvent les métis culturels. Hein. Et maintenant, j'en fais une force, bien sûr, parce qu'on est toujours le contrepoint d'un autre. Et pour reprendre les citations que vous venez de dire, il y a aussi un slameur sénégalais qui s'appelle Souleymane Diamanka et qui dit « Je parle en français dans une langue étrangère ». Et j'aime beaucoup cette idée-là, c'est que j'essaye de retrouver la musicalité du Kirundi et du Kinyarwanda lorsque j'écris en français, malgré le fait que je ne parle ni Kirundi ni Kinyarwanda.
C'est quoi? C'est une imprégnation quand
même? Oui, c'est une imprégnation. C'est le rythme. Ouais. Il y a une manière de dire les choses, parce que même ma mère, quand elle me gronde ou quand elle me dit certaines choses, elle va traduire en français ce qu'elle dirait en Kinyarwanda. Donc il y a une manière de voir le monde qui est très différente d'ici.
Et justement, moi, de même, lorsque vous lisez les proverbes de Konetou dans Anguille sous roche, vous pouvez voir ces slogans ou bien ces formules lapidaires que les Comoriens répètent quotidiennement. Et c'est ce que j'ai voulu. Ils symbolisent en quelque sorte la culture comorienne.
Lapidaire, parfois très long aussi. La vie est une espèce de chemin à la fois long et court qui ne prend sens que dans le rêve collectif. L'école, dit Konetou, donc le père, l'école est l'habit moral du corps humain. Ça, c'est un hommage à des idiosyncrasies, des expressions particulières comoriennes?
Non, ça, c'est particulier. En fait, ce n'est pas spécifiquement un proverbe comorien. Mais, par exemple, lorsqu'il dit, quand on ne sait pas quel type d'excrément déféquer, on dit n'importe quoi.
C'est ça. Donc, c'est un trait particulier qui fait référence, justement,
au Comore.
Alors, je voudrais savoir quand même, si on creuse un peu plus dans le politique, c'est vrai que cette langue, la langue française, c'est quand même la langue d'un pays qui était bien absent, Gaël Faye, quand le Rwanda et aujourd'hui d'ailleurs le Burundi, toujours, ont été en grande difficulté et le mot est faible, en fait, quand ça a été l'horreur, voilà. Mmh. Et Ali Zamir, c'est vrai que c'est aussi la langue de ce pays qui a du mal à vous accorder un visa quand vous devez venir pour présenter votre livre, quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même un enjeu quand on écrit dans cette langue que vous maîtrisez parfaitement, l'un et l'autre, une façon de rendre sien ce langage, peut-être qu'on vous oppose comme étranger, quoi, à chaque fois, voire menaçant? Est-ce qu'il y a une forme de revanche, finalement, à maîtriser si bien ça et à à offrir voilà ces romans dans une langue, encore une fois, d'un pays qui n'a pas été toujours exemplaire avec les Comores ou avec le Rwanda ou le Burundi.
Pour moi, l'affaire du visa ne m'a pas affecté parce que tout simplement, la langue française, je ne l'ai pas choisie. C'est elle qui m'a choisi. Et s'il n'y avait pas cette langue dans ma vie, je ne sais pas ce que je serais devenu. C'est une langue que j'ai toujours vécu avec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne considère pas cette langue comme une langue appartenant au français, non. C'est une langue qui est maintenant, qui a une identité universelle.
Est-ce que vous auriez pu écrire en comorien, par exemple?
Oui, bien sûr, mais je ne crois pas que j'aurais le même succès. Non, pas du tout, parce que la langue comorienne n'a pas beaucoup de locuteurs.
C'est juste mais on aurait pu la traduire après, on aurait pu traduire, mais le véhicule de la langue française est meilleur et plus fort pour vous littérairement que la langue comorienne ou...
La langue comorienne, c'est une langue nationale, alors que la langue française est une langue universelle. C'est tout à fait quelque chose de différent.
Moi, je ne sais pas, je me dis que même les langues, même si c'est une langue nationale, finalement, toute langue, comme tout pays, comme tout être humain, va vers l'universel.
Oui.
Et je dis ça parce que ma mère et une partie de ma famille m'a éduqué comme ça en me disant tu apprendras le français parce que c'est une langue importante et que notre langue, le Kinyarwanda, ne l'est pas. Et donc aujourd'hui, si j'ai un grand regret dans ma vie, c'est de ne pas connaître ma langue maternelle, qui est la langue de ma mère, parce qu'il y a eu cette hiérarchisation des langues. Je pense que toutes les langues se valent. Oui. Je pense que à partir de chaque langue, on ouvre vers un imaginaire qu'une autre langue ne peut pas donner, et c'est ça l'intérêt de chaque langue. Je crois que si j'avais parlé le Kinyarwanda, j'aurais eu accès à un imaginaire différent de ce que me donne le français. Et en ça, toutes les langues sont intéressantes.
Alors Gaël Faye, je voudrais qu'on écoute un titre de vous, parce que vous êtes aussi musicien, auteur, compositeur, un fils du hip-hop, comme vous dites. Et en fait, en 2013, vous avez sorti un premier album solo, qui était enregistré entre Paris et Bujumbura, au Burundi, dont le titre était « Pili Pili sur un croissant au beurre ». Et dans cet album, il y a une chanson qui s'intitule « Petit pays, on écoute ».
Gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gahugu gatoyi, gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand?
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril.
Petit pays, donc c'était sur l'album Pili Pili sur un croissant au beurre en 2013. Gaël Faye, un homme raconte et se souvient, c'est le même titre que votre roman aujourd'hui. Finalement, la chanson, l'autobiographie rappée ne suffisait pas à dire ce que dit Petit Pays?
Ah oui, complètement. La chanson, c'est un autre format qui a des codes bien plus contraignant que le roman. Enfin, pour moi, le roman, d'ailleurs, il n'y a pas de contrainte, il y a une liberté absolue. Je trouve que dans la chanson, ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a quand même une manière de faire qui nous limite dans l'espace, qui nous limite dans le temps. Et donc là, j'avais besoin de déployer les thèmes que j'abordais dans mes chansons sous une autre forme.
C'est trop resserré, c'est ça?
C'est resserré, ça répond aussi à un instant, c'est un petit instant la chanson. Le roman n'a pas de limite. Et puis on a aussi la mécanique quand même du rythme, de la rime, qui fait qu'on est entre guillemets dans un carcan, même s'il y a dans ce carcan-là, on trouve sa liberté, son espace, mais il y a un carcan. Et j'ai trouvé dans le roman un autre souffle que je ne connaissais pas, et j'avais aussi envie de créer des personnages, créer une atmosphère, des psychologies. Pareil, on peut raconter des histoires dans une chanson, mais on pourra jamais aller aussi loin que dans un roman.
Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, Aliza Mir, sur le roman, justement cette forme infinie, sans carcan? Il n'y a pas de carcan, il n'y a pas de contrainte dans un roman?
Tout à fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que c'est pour cela d'ailleurs que les critiques ont appelé le genre du roman un super genre. C'est parce que le roman donne la possibilité de mêler plusieurs genres à la fois. On peut mêler une nouvelle, la chanson, la peinture, la sculpture, tout ce qu'on veut.
Le silence.
Le silence, tout à fait. Par exemple, dans Le silence de la mer de Vercors, par exemple, c'est le silence qui parle beaucoup plus que les mots. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé Le silence de la mer de Vercors.
Alors, Gaël Faye, l'histoire de Petit Pays se passe en 1992 au Burundi. Gabriel a 10 ans, il vit avec son père français, qui est entrepreneur. Sa mère est rwandaise. Il y a sa petite sœur aussi, Anna. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une bande assez joyeuse qui fait les 400 coups, comme on le fait quand on est enfant, pas seulement chez Truffaut. C'est un quotidien paisible qui va se disloquer en même temps que ce petit pays d'Afrique brutalement malmené par l'histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se profiler, et puis ça sera le drame rwandais, le quartier bouleversé, le pays se déchire, la guerre s'installe. Il se croyait un enfant, Gabriel, il n'avait pas d'ennemis, il ne comprenait pas la différence entre un Hutu et un Tutsi, il va se découvrir métis, Tutsi, français, et va apprendre l'art de la guerre. Je voudrais qu'on vous entende, Gaël Faye, lire le début de ce livre, et on va voir cette fausse naïveté qui se déploie, je dis bien fausse naïveté.
Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué, un jour, dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents. On appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits avec de gros nez. Comme Donatien? J'avais demandé. Non, lui c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Proté par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les Toa, les Pygmées. Eux, passons. Ils sont quelques-uns seulement, on va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus. Ils sont grands et maigres, avec des nez fins, et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. « Toi, Gabriel, » avait-il dit en me pointant du doigt, « tu es un vrai Tutsi. On ne sait jamais ce que tu penses. » Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça? Alors j'ai demandé, « la guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire? » « Non, c'est pas ça, ils ont le même pays. » Alors, ils n'ont pas la même langue? Si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même Dieu? Si, ils ont le même Dieu. Alors, pourquoi se font-ils la guerre? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. La discussion s'est arrêtée là. C'est quand même étrange cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand-chose.
Merci Gaël Faye, extrait de... C'est le début, hein, ce sont les premières phrases, les premières lignes de Petit Pays. Je disais, fausse naïveté, hein, la guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas le même nez. Fausse naïveté, car en réalité, Gabriel entend et dit la vérité. Ce sont pas des mots d'enfant, ça a vraiment commencé comme ça. Les ethnologues belges arrivés avec les colonisateurs qui mesurent, qui catégorisent les crânes, les nez, la taille et vont en tirer des conclusions qui seront dramatiques puisqu'ils vont favoriser un groupe plutôt qu'un autre.
Exactement. Cet extrait prête à sourire, mais malheureusement c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Suite aux thèses de Gobineau du 19e siècle, on a plaqué au Rwanda un profil type, des prototypes raciaux On a fait des Tutsis, un peuple venu d'ailleurs, amitique, avec des caractéristiques physiques, et puis des Hutus, on les a classifiés dans un autre genre. Et les gens, les Rwandais, les Burundais ont intériorisé ces classifications, au point qu'un siècle plus tard, au barrage, lors du génocide, les miliciens tuaient ceux qui étaient grands, qui avaient des nez fins. Et il arrivait des fois que celui qui était grand et qui avait des nez fins n'était pas un Tutsi, était un Hutu.
Alors, je vous posais cette question parce que c'est vrai qu'on est, frappé par l'agilité dont vous faites preuve. C'est-à-dire parler d'une réalité compliquée, adulte, avec ce regard d'enfant. Il y a quelque chose qui me frappe. Vous avez dit que pour écrire ce livre, il avait fallu que vous réintégriez votre corps d'enfant. Quels souvenirs vous aviez de ces événements et à quelle source vous avez puisé pour restituer au fond, plus qu'un arrière-fond, en fait, le sujet même, au fond, qui s'exprime dans Petit Pays, comment une enfance est fracassée, comme un pays, par l'irruption de la guerre.
J'ai très peu de souvenirs précis de cette époque. Il me restait des sensations diffuses. La première, c'est la peur. Je me souviens de la peur et de ce mot « insécurité ». Je l'ai ressenti vraiment dans ma chair, dans mes os. L'insécurité, c'est ce moment où on se dit qu'on va peut-être pas survivre à cette journée. J'ai jamais pu revécu ça ensuite dans ma vie, mais d'avoir traversé une période comme ça, c'est un traumatisme. Hein. C'est vraiment un traumatisme. Et donc l'écriture, pour moi, ça a été cette... J'ai dû aller vers quelque chose, trouver quelque chose pour soigner cette insécurité-là. Et ça a été le
C'est-à-dire que littérairement, la peur, littérairement, même techniquement, a été une arme, un matériau pour écrire Petit Pays.
Ça a été un déclencheur surtout. Pour écrire Petit Pays, je l'ai écrit des années plus tard. Et là, la peur avait disparu. Donc, quand je dis qu'il fallait que je retrouve mon corps d'enfant, c'est qu'il fallait que je retrouve cette peur. Mais pour retrouver cette peur, il fallait que je retrouve aussi les sensations qui avaient précédé cette peur. Et les sensations qui avaient précédé cette peur, c'était le bonheur. C'était cette enfance heureuse. Et tout est arrivé, ça s'est pas arrivé du jour au lendemain, parce que même le jour du coup d'État, au Burundi, j'ai pas eu conscience qu'à ce moment-là, les choses allaient changer. Et donc dans le roman aussi, je fais apparaître la violence par petites touches successives. Et c'est l'enfant qui bascule petit à petit dans cette horreur et dans cette peur. Et d'ailleurs, il le dit à un moment donné, je ne sais pas, quand moi et les copains, on a commencé à avoir peur. Quand est-ce que la peur est arrivée? Parce que même le premier coup de feu, il ne fait pas peur. C'est la succession des coups de feu. C'est la violence qui commence à devenir gratuite dans la rue. C'est l'instabilité autour de nous, c'est le départ des personnes qui, petit à petit, nous met dans une ambiance de peur. Et on s'en rend compte seulement quand on quitte cette ambiance.
Donc c'était pas un artifice littéraire de mettre cette peur à distance. Parce que c'est vrai que quand on lit par exemple les récits de Jean Hatzfeld, qui fait souvent parler des gens qui, enfin victimes comme bourreaux, hein, qui ont subi ou provoqué cette violence, on est vraiment dans le brut, dans le cru. C'est pas un artifice littéraire le fait d'avoir justement parlé de la violence par petites touches, comme s'il fallait quand même un peu camoufler les choses.
Non, c'est pas un artifice littéraire, c'est une envie de montrer comment une guerre arrive. La guerre n'arrive pas subitement, comme ça, d'un coup, la peur s'installe. On voit bien, même en France, on est dans un pays en paix, mais on a des attentats qui successifs, et petit à petit, la peur nous gagne.
C'est vrai que c'est parfois, vous utilisez le registre fantastique, Gaël Faye, vous parliez du premier coup de feu, nous étions sur le pont Moua, quand le taxi a brusquement pilé, personne ne s'y attendait, nous nous sommes cognés les uns aux autres, projetés vers l'avant. La tête de Francis a heurté le tableau de bord. Quand il s'est relevé, un peu de sang coulait de son nez. Le temps de recouvrer nos esprits, l'attitude du taximan nous a glacés, il était pétrifié. Les mains tétanisées sur le volant, ses yeux effrayés fixaient la route et il répétait « Shaitani, 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 le diable ». Devant nous, dans l'obscurité, un peu au-delà de la lumière des phares, nous avons vu passer l'ombre d'un cheval noir. On est totalement dans le registre finalement fantastique. Le cheval noir, le diable qui s'invite, loin des textes justement de Jean Hatzfeld par exemple.
Oui, les textes de Jean Hatzfeld sont des témoignages. Très beau texte parce que travailler, la force de Jean Hatzfeld, c'est d'arriver à rendre compte de la langue rwandaise à travers le français. Mais ce sont des témoignages qui nous laissent parfois sans voix, qui nous laisse impuissants, parce que la violence est tellement grande que l'on se dit presque, et je vous parle de mon sentiment même en tant que Rwandais, on se dit qu'est-ce que je peux bien faire avec ça ? Qu'est-ce que je peux bien faire avec toute cette violence ? On referme ce livre et on se dit, bon, comme je dis dans une chanson, les loups sont des chiots et les hommes sont des hommes pour les hommes.
Quand vous dites qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'au fond, la littérature serait un pis-aller, et quelque chose qui n'aurait pas vraiment, au fond, de consistance par rapport à cette violence ?
La littérature, ça permet de maintenir la tête hors de l'eau, je pense. Hein. Mais effectivement, quand on aborde le sujet de l'extrême violence, pour moi, il y a une difficulté à parler de cette violence. Je pense que c'est aussi le rôle de l'écrivain d'essayer de donner un souffle et donner un espoir, même dans cette violence-là, des outils de compréhension, comme Primo Levi l'a fait avec « Si c'est un homme », c'est-à-dire que moi, j'ai compris le génocide à ce moment-là, en lisant ce livre. Parce que je n'étais pas juste pétrifié par la violence, ça allait au-delà. Il y avait une part de la psychologie de l'homme, une part de l'humanité dont il était question.
Alice Amir.
Oui, je pense que, concernant le sujet de la peur, oui, de la terreur, c'est vrai, c'est un sujet que beaucoup d'écrivains essayent de se libérer à partir de l'écriture. Mais je ne pense pas qu'il y ait des difficultés à pouvoir se décharger d'un poids si l'on est écrivain. Parce que le but de la littérature, c'est de laisser des traces, de faire sentir ce qui n'est pas facile à exprimer. Et justement, la littérature a cette force de faire apparaître ce que beaucoup de gens considère comme tabou ou bien considère comme poids qui pèse dans le cœur. Et c'est pour cela que moi, j'ai choisi la littérature, parce que ça donne une possibilité de pouvoir s'évader, se décharger de nos problèmes.
Et briser sa solitude aussi, parce qu'on est, seul aussi. Souvent, on a l'impression qu'on est les seuls à ressentir ça. Et l'écriture, ça nous permet aussi d'aller vers l'autre et de se rendre compte que finalement, on est une communauté d'âmes, on est une communauté de cœur et de sensibilité.
C'est drôle parce qu'il y a une phrase de Kafka sur ces petits pays, hein, en général. La mémoire des petites nations n'est pas plus courte que celle des grandes. Elle travaille donc plus à fond le matériel existant. Oui. Je trouve assez bien pour chacun de vos livres.
Oui, oui. Tout à fait.
Alice Amir.
Chaque mémoire a son importance, a sa valeur. Comme l'a dit Galfay, chaque culture, chaque langue a ses richesses, ses particularités. Et quand on essaie justement d'interpréter ces particularités, ça enrichit cette universalité de la langue française et de la culture en général.
Et encore une fois, le roman, c'est la forme qui allie le mieux la mémoire, disons, nationale, la mémoire du pays, du petit pays, et la mémoire individuelle, celle du souvenir, celle de l'enfance.
Je me garderai de faire des hiérarchies dans les formes d'expression. Je pense que la chanson a peut-être un potentiel encore plus grand de lier les gens entre eux, parce que on écoute la musique ensemble, alors que
on la danse ensemble.
Exactement, alors que la littérature, c'est un voyage solitaire, c'est un autre temps.
Je voudrais qu'on écoute, Gaël Faye, votre court extrait de votre choix musical Macombo de Geoffrey Oriema. En fait, que vos personnages en fait écoutent dans la voiture juste avant le coup de feu.
Makamboe, munu para kileva chuli balutua, bua Lutua unu ek luen Lutua unu ek luen O na makamboe Ngai na makamboe Para que leva de oliva
Macombo de Geoffrey Oriema, c'est le choix musical de Gaël Faye. Il est présent, hein, ce titre, dans le texte même. Pour voir la ville, il fallait enlever la buée en frottant les vitres avec nos slips. Bujumbura était maintenant une plantation de lumière, un champ de lucioles qui illuminait l'opacité de la plaine. À la radio, Geoffrey Oriema chantait Macombo. Sa voix était un instant de grâce, elle fondait comme un bout de sucre dans nos âmes et ça nous apaisait. De notre trop-plein de bonheur. Trop-plein de bonheur.
Ouais, c'est ma partie préférée du roman, parce que c'est vraiment la fin de, du bonheur.
La fin de l'innocence.
Et la fin de l'innocence. Et ce texte, je l'aime beaucoup, cette chanson, je l'aime beaucoup, parce qu'elle pose la question de quand est-ce que la paix viendra en Afrique. Et elle passait souvent à la radio, effectivement, durant ces années.
On va continuer avec vous. Ali Zamir, avec cette Anguille sous roche que vous publiez aux éditions du Tripode. Alors, Anguille sous roche, c'est l'histoire d'Anguille, une adolescente d'Anjouan, l'une des îles des Comores. Trois îles, hein. Et dès le début, le récit est placé sous de sombres nuages, puisque nous comprenons qu'Anguille doit se hâter de parler, hâter de retracer sa vie, parce qu'elle est en train de se noyer.
Bien sûr.
C'est dans son dernier souffle, hein, le mot souffle est très important pour vous, qu'elle déroule en une seule longue phrase, semée de virgules, tout ce qu'elle a à en dire de cette brève et intense vie, une histoire d'amour avec Vorace, un pêcheur qui est le premier à éveiller le désir chez elle. Et les noms sont très importants, hein. Il y a Anguille, connaît tout, sa sœur Crotal. Et tous ces personnages, finalement, vont être pris aussi dans le récit d'Anguille, puisqu'elle nous parle de sa vie sur l'île, du travail des pêcheurs, des rêves, de la situation politique et économique qui va finir par faire irruption dans le récit, de la condition des femmes aussi. Oui. Elle a choisi, votre héroïne, de partir pour Mayotte et elle se noie. Le livre entier sort de sa bouche d'une seule traite. Tous les registres de langue cohabitent. C'est une vague de mots qui réveille le lecteur. Je voudrais qu'on parle, c'est ma première question, Ali Zamir, de ce titre contre-intuitif, puisque Anguille, c'est son nom, hein, je l'ai dit, la signification elle est redoublée par la forme, la circularité, hein, oui. Comme une anguille qui s'enroulerait sur elle-même. Et en même temps, une anguille sous roche, quand on dit « il y a anguille sous roche », on revient à ces expressions, c'est qu'il y a un secret à cacher. Vous dites qu'en jouant, c'est le pays des questions. Alors, pourquoi ce titre, au fond, quel serait le secret d'Anguille qui semble nous dire tout?
Anguille sous roche, c'est pas forcément la traduction du proverbe qui a quelque chose de louche, non.
De beau de beau.
Oui,
surprenant.
On peut le prendre par ce sens-là, mais Anguille sous roche a une traduction universelle. Il y a plusieurs sens dans ce titre. Parce que j'ai traduit le mot roche dans le roman comme silence. Il y a le silence qui est là. Et le silence a beaucoup de choses qu'on doit déchiffrer et qu'on ne sait pas.
C'est-à-dire que la roche, c'est le silence.
C'est le silence. C'est ce que j'ai fait. J'ai développé ce mot roche par le silence, par le pays et par la médina, le quartier où vit l'héroïne. Parce que il symbolise le silence, il est silencieux et on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. C'est après qu'on va se rendre compte à la fin du roman qu'il se passe beaucoup de choses dans la médina et que beaucoup de gens ignorent. Et parmi ces choses-là, c'est l'histoire d'Anguille, l'héroïne. Et le mot Anguille aussi, je l'ai attribué plusieurs sens aussi. Et c'est un personnage bizarre. C'est pas forcément anguille en tant que poisson, mais c'est un nom singulier. Et le caractère justement du personnage est singulier. Et son langage est hors du commun. Et c'est un personnage qui est excessif dans ses caractères. Il exprime avec liberté tout ce qu'il ressent, tout ce qu'elle a comme tout ce qu'elle tient dans le cœur. Et c'est ça ce que j'ai voulu faire dans l'écriture Anguille sous roche.
Alors j'aimerais bien qu'on vous entende lire Alice Amir Anguille sous roche pour se rendre compte un peu de la tonalité, du son, de la musique et de la complexité et de la simplicité en même temps de ce texte qui joue sur les deux registres. Mais alors vous ne voulez pas. Alors je suis bien embêté.
Justement, et ce n'est pas la première fois qu'on me demande de lire ce texte, mais je vais répondre à la même chose. En fait, ce texte, c'est un texte qui n'est pas ponctué parce que tout simplement, c'est un texte qui cherche son identité. Et par là, je veux que ça soit le lecteur lui-même qui attribue sa musicalité, son ton à ce texte. Si on me demande de lire ce texte et que je le fasse, c'est comme si je donnais moi-même le ton, la musicalité, la clé. C'est comme si je le ponctuais moi-même. Et c'est ce que j'ai évité en l'écrivant.
Bon alors là, vous savez que vous brisez finalement un des commandements, un des seuls commandements d'ailleurs de cette émission, Alice Amir. Alors du coup, je vais me permettre quelque chose aussi. Est-ce que Gaël, je peux vous demander, parce que c'est vraiment de lire la première page de donc ce n'est pas votre texte, mais comme vous avez cette très très belle voix, voilà, est-ce que ça vous embête ou
bon, je vais essayer de trouver ma propre musicalité.
Voilà, et tout se mélange. Ouais.
Oh, la terre m'a vomi, la mer m'avale, les cieux m'espèrent. Et maintenant que je reprends mes esprits, je ne vois rien, n'entends rien, ne sens rien. Mais cela ne pèse pas un grain puisque je ne vaux rien. Pourquoi me laisserais-je broyer du noir alors que tout va finir ici? Un mort confirmé ne doit point avoir peur de pourrir, nous disait mon père connaît tout. Celui qui avait la science infuse et qui, bien qu'il m'avait donné le nom d'anguille, ignorait que tout le monde vit dans sa propre anguillère. Que chaque antre abonnit une anguille, chaque silence une surprise, mais que les surprises varient en fonction du degré du silence. J'ai dit, mon père connaît tout, parce que j'en ai un autre encore. Et qu'est-ce qu'on m'a dit, moi? C'est un quidam qui erre dans la nature. Cela ne doit pas étonner qui que ce soit. S'il y a des gens qui ont un seul père, il y en a qui en ont plus que deux. Moi j'en ai deux pour l'instant, et ça c'est une autre histoire.
Alors Gaël Faye lisant Alice Amir.
Oui, sauf que j'ai mis un point et il n'y a pas de point.
Voilà.
Il y a une virgule. Et ça, c'est une autre histoire.
Exactement, parce qu'il faudrait enchaîner.
Oui.
Ça vous fait quoi quand vous entendez, justement, là en l'occurrence, Gaël Faye, lire ce texte que vous refusez à lire?
Ça me fait grand plaisir de l'entendre lire ce texte, parce que je pense qu'il l'a lu comme il l'a compris. Hein. Il l'a attribué les sons qu'il aimerait l'attribuer. Et c'est ce que j'ai voulu, justement. Et ça m'a fait grand plaisir de l'entendre lire ce texte lui-même.
Merci. Et je voulais dire, je pense que c'est vraiment une lecture de la transe, pratiquement. C'est-à-dire que comme quand on joue des musiques de transe, c'est qu'il faut se laisser emporter. Et là, j'étais un peu à froid. Mais
vous le referez une autre fois. On voit. Ouais, invitera Gaël Faye. Mais la transe, d'ailleurs, on rejoint ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire que entre l'opposition, si tant est qu'il y ait une opposition, entre littérature et musique, et cette activité solitaire du lecteur qui pourrait être contournée par des expériences de lecture de type transe, non? Ça pourrait être pas mal, Alice Amir.
Oui, littérature et musique, ça s'oppose sur justement le rassemblement, peut-être un peu, parce que la musique joue un peu de temps, mais c'est quelques minutes qu'on peut l'entendre, ce sont des moments forts, mais c'est évasif. Ça passe et on peut peut-être oublier.
C'est très, j'allais dire, c'est très drôle, vous avez dit évasif,
oui.
Vous avez parlé de délivrance aussi. On est dans le cas d'une femme qui se noie et tout est raconté comme si on s'échappait,
oui.
En fait.
Oui.
Voilà. Je voudrais qu'on revienne quand même à ce personnage d'anguille, parce que vous avez dit c'est un nom singulier, évidemment, il y a du symbole là-dedans.
Oui.
Sa sœur s'appelle Crotale, on a quand même l'impression d'un serpent de mer, hein, l'anguille,
oui.
Et du serpent de terre, le Crotale, avec ce texte qui tournoie sur lui-même, sans ponctuation.
Oui.
Il y avait l'idée de faire quelque chose aussi de presque formellement, non pas parfait, mais... C'est que la forme, le serpent, est aussi, dans certaines traditions aussi, quelque chose qui est lié à la connaissance. Hein. Oui. Tirésias, qui voyant deux serpents s'accomplir, va pouvoir être homme et femme. Dans toute la tradition occultiste aussi, le serpent qui se mord la queue, aussi symbole de connaissance. Il y a ce plan-là, symbolique, dans ce texte, Ali Zamir ?
Oui, c'est un texte qui leurre. L'écriture elle-même, c'est une écriture qui leurre, parce qu'elle imite la forme du serpent, d'Angu. C'est une écriture qui parle d'un caractère anguilliforme. Pour moi, anguilliforme veut dire tout simplement singulier. Mm. Et c'est pour cela qu'on a tendance à se demander où va finir cette histoire. Mm. Et elle-même ne sait pas la fin. Elle se demande où va-t-elle s'arrêter.
Ça se termine avec ce mot, ouf.
Ouf, hein, justement. Voilà.
Et c'est pour moi. Est-ce que c'est l'auteur aussi qui parlait?
Ouf, ça veut dire que ouf. Et c'est arrêté brusquement parce qu'il y a quelque chose, peut-être soit la mort, soit on ne sait jamais, on sait pas exactement pourquoi elle s'est arrêtée. C'est brusque.
Je vais faire Gaël Faye, hein, je vais essayer de lire aussi à mon tour. C'est le dernier paragraphe, mais c'est circulaire, donc de toute façon, ce n'est pas important. Je ne délivre aucune information sur la fin, puis on sait de toute façon qu'elle est en train de se noyer. Hein. Oui. Et mon Dieu, je suis où là? C'est quoi ça donc? Ça veut dire qu'il est temps que j'entre en coulisses ou quoi? C'est mon tour? Non, je sais que c'est fini, oui. Mais si vous ne me le dites pas, c'est fini pour toi, anguille, grosse bête. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, ça y est, c'est ainsi que trépasse chaque anguille. Moutsamoudou, mon amour, la Médina, ma chérie, face au naufrage de mes rêves les plus profonds et les plus sombres, je vous tire humblement ma révérence. J'ai perdu la savoureuse terre, je me perds dans ces tumultueuses vagues pour disparaître en pleine foudre de ces cieux brûlants. Et maintenant que je... Ouf ! Point d'exclamation. C'est la dernière page. Ali Zamir, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Vous multipliez les registres divers, éther, nocher, empiré, qui font référence à la mythologie, émorionné, mazette, démérite, maussaderie, sambarbouillé, proté, zeuser, misandre, marmoté, et puis des mots endémiques, hein, chigoma, zifafa, tam-tam de bœuf, d'expression insolite, devenir ivre comme toute la Pologne, je voudrais leur chanter pouille, une gueule d'empeigne, des amandes sauvages comme pneus. Et puis cette figure de style insolite, hein, et qu'il est bon de rappeler, une espèce d'apostiopèse prime sautière. Ça, vous avez dit qu'elle parlait une langue singulière aussi, anguille. C'était, il fallait faire jaillir toutes ces richesses de langues.
Oui, tout à fait. En fait, ce mélange de registres, c'est aussi voulu. C'est justement brouiller les pistes, c'est-à-dire effacer les frontières, éviter que ce texte soit classifié.
Est-ce qu'on peut voir aussi dans Anguille une héroïne tragique, hein? Elle décrit sa vie comme un théâtre, hein? elle le dit. Il y a 5 titres, hein, dans le roman, hein? Même si une seule phrase est scandée par 5 parties qui font penser aux 5 actes de la tragédie classique. Elle regarde le monde du haut de sa terrasse, elle est à la fois l'actrice et la spectatrice, hein, de ce récit et de cette mort, et cette mort qui est une vie. Hein? C'est un monologue, hein, qui fait penser aussi au monologue tragique. C'est une héroïne tragique, votre anguille?
Pas forcément tragique, mais anguille voit ce monde comme un spectacle. C'est un caractère peut-être qui est dû à mon influence du théâtre. J'ai beaucoup fait du théâtre à mon enfance. Et je me souviens d'une citation de Diderot qui dit, en écrivant une lettre à une dame qui s'appelle Cécile Volant, il écrit « Oh, que ce monde-ci serait une bonne comédie si l'on n'y faisait pas un rôle. » C'est-à-dire que on a tendance à voir ce monde comme une comédie, mais on peut pas rire notre histoire, parce qu'on fait partie de l'histoire, on est acteur et on est condamné à jouer le rôle, ouais, pas à rire.
Pourvu qu'on puisse le choisir.
Voilà.
De votre histoire, de notre histoire, aussi de l'histoire d'un continent, le roman se ferme, Ali Zamir, sur le naufrage des exilés, hein, tous partis pour des raisons différentes de l'île des Comores. Je voudrais dire qu'aussi, il y a de très très belles pages d'amour, hein, dans ce livre. Et il y a une phrase dans Petit Pays qui m'a fait penser à ça, à cette tragédie. Nous vivons sur le lieu de la tragédie, l'Afrique a la forme d'un revolver, écrivez-vous, Gaël Faye. Rien à faire contre cette évidence. Tirons-nous, dessus ou ailleurs, mais tirons-nous ? Est-ce que quand on vient d'Afrique, quand on écrit sur l'Afrique, c'est toujours écrire sur la mort et écrire sur la fuite, sur l'exil ?
Absolument pas. Ouais. Non, surtout pas.
C'est vous hein, qui dites qu'elle a une forme de revolver.
Ah oui, mais là, c'est... Voilà. Tirons-nous. Alors là, pour le mettre dans son contexte, c'est, on est au cabaret, donc c'est cette espèce de gargote où il y a des ivrognes qui se rejoignent chaque soir. Et donc là, il y a des dialogues qui émergent du noir. Et donc, il y en a un qui dit ça. Donc, il y a bien sûr une part de vérité dans ce que
tirons-nous dessus ou ailleurs, oui. Mais tirons-nous, oui. C'est pas mal.
Oui, c'est pas forcément ça ne veut pas dire forcément que en Afrique il n'y a que l'exil ou bien l'immigration, non. Mais par exemple, moi, ce qui est important.
Mais quand même, c'est au centre, oui. Aussi de chacun de vos livres. L'exil, voilà, et l'exil de soi, oui, bien aussi entendu. La noyade, oui. À cause de l'exil, de la, oui. Fuite.
Oui. Oui, justement. Et Anguille, lui, elle quitte en juin. Pourquoi? On a vu que c'est par déception, c'est parce que elle a été chassée, elle a été délaissée par son amant et chassée de chez son père. Et elle est obligée de trouver un refuge. Et
ça rejoint ce qu'écrit Gaël Faye aussi, c'est-à-dire que au fond la terre première en fait de l'exil, c'est notre enfance.
Oui.
Et c'est ce qui arrive à vos deux héros. Oui. Angui quitte aussi son enfance, elle est enceinte, hein.
Oui.
Voilà.
Ah oui, je pense que ça c'est la là on parle, il y a le mot qui revient souvent dans notre conversation d'universel, et je crois qu'aussi on écrit surtout pour ça, et ce qu'on partage tous en tant qu'adultes, c'est notre exil de l'enfance.
Et ce n'est pas facile parce que Angui, le passage où il quitte la Médina, elle dit que c'est la première fois qu'une grosse larme coule à cause de ça, et on voit que c'est quelque chose qu'on lui a imposé. Et c'est pas facile de quitter ses racines, c'est là où on est né.
Et son enfance.
Son enfance.
Merci à tous les deux, à Lise Amir et Gaël Faye. On va se quitter sur votre choix musical, à Lise Amir. Vous avez choisi un artiste comorien, Alid Daniel. Il joue avec son groupe Jimbo. Pourquoi ce choix?
Parce que tout simplement, Jimbo était toujours considéré comme... Un grand orchestre dans l'océan Indien, et Alid justement plus particulièrement était nommé meilleur guitariste de l'océan Indien aux années 90.
Bien, merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos livres, Gaël Faye, Petit Pays, c'est chez Grasset, et Alise Amir, Anguille sous roche, c'est publié au Tripode. Merci à tous les deux. Nous écoutons donc Alid Daniel et son groupe Jimbo.
Wanifanyia duniani.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Nous sommes cette semaine avec Émilie Potus de la librairie La Manœuvre, 58 rue de la Roquette. C'est dans le 11e arrondissement à Paris. Bonjour Émilie Potus.
Bonjour.
Vous êtes venue avec un texte dont on parle beaucoup en cette rentrée. C'est le roman Désoriental de Negar Djawadi. C'est un premier roman publié aux éditions Liana Levy. Il s'agit de l'arrivée à l'hôpital à Paris d'une iranienne, et cette arrivée à l'hôpital déclenche toute une série de souvenirs sur l'Iran, puisqu'elle est iranienne, l'Iran des années 70.
Oui, tout à fait. En fait, on rentre dans le roman, on est dans la salle d'attente de l'hôpital Cochin et dans un service très particulier qui est le service des procréations assistées. Et Kimia attend son tout dernier rendez-vous d'un très très long processus d'insémination artificielle. Et elle patiente vraiment longuement. Et ça lui permet de se rappeler voilà sa jeunesse, donc comme vous disiez, dans les années 70 en Iran. Mais pas que, parce qu'elle remonte dans toute l'histoire de sa famille. Et elle part de son arrière-grand-père, qui a un nom extraordinaire, qui s'appelle Montazeh Molmok, qui lui était un seigneur de harem dans l'Iran féodal, tout simplement. Et à partir de là, elle raconte la naissance de sa grand-mère, qui est, voilà, je ne vais pas tout déflorer, bien évidemment, mais qui est un passage assez beau dans le livre. Une grand-mère qui est assez truculente. Et puis, elle en arrive à son père, qui s'appelle Darius, qui est un des personnages très, très importants dans le roman, qui est un père voilà, flamboyant, militant, qui lâchera jamais l'affaire en Iran, puisqu'il va subir à la fois l'arrivée du Shah et à la fois l'arrivée de Khomeini. Et l'arrivée de Khomeini qui, évidemment, va complètement bouleverser la famille et qui va forcer la famille à s'exiler en France. Voilà, donc le roman ne parle pas que de l'Iran, parce qu'il y a une énorme partie justement sur l'exil, sur l'intégration et sur ce que c'est quand on est une jeune femme iranienne d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, s'adapter à une langue qu'on ne connaît pas et finalement de faire ce qu'elle appelle sa désorientalisation, qui est voilà, un titre moi je trouve absolument magnifique parce que ça replace beaucoup de choses aujourd'hui en fait dans ce que c'est que d'être étranger en France.
Oui, il y avait Boussole de Mathias Sénard aussi, on cherchait un peu le sens de l'Orient. Donc Désoriental, qu'est-ce qui vous a touché dans ce livre en particulier?
Alors il y a beaucoup de choses vraiment touchantes dans le livre. Alors, déjà, Negar a une écriture très fluide. Elle arrive aussi à mettre beaucoup d'humour dans son texte alors que le propos est quand même assez grave. Et surtout, il y a une construction qui est assez incroyable, où on navigue entre passé et présent, avec des histoires un peu dans l'histoire, et on sent vraiment le conte persan, en fait. On sent toute l'influence de l'Orient dans son roman, alors qu'on est aussi vraiment dans un roman occidental.
Merci beaucoup, Émilie Potus. Donc, Désoriental, c'est vrai, très beau titre. C'est le livre de Negar Djawadi, publié chez Liana Levy. J'invite, Émilie, les auditeurs à découvrir votre belle librairie, dont je rappelle le nom et l'adresse. La Manœuvre, 58 rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement à Paris. À bientôt.
À très bientôt. Potus. Merci.
À bientôt. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et Valérie Lavalard à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette heure que nous avons passée avec Gaël Faye et Ali Zamir.